Alors voici du soja Shirofumi, nettement meilleur que les sojas OGM. Alors le soja, c'est une des principales cultures OGM dans le monde. Et c'est une des cultures qui couvre la plus grande surface de la plus grande surface. Alors c'est une catastrophe sanitaire, écologique, économique, enfin à tous les points de vue. Le soja transgénique, il est tellement réussi qu'en fait, il peut être considéré comme une mauvaise herbe lui-même, à tel point qu'il se dissémine un peu partout et que en ce moment, en Argentine, le soja est en train d'étouffer d'autres plants et notamment toutes les cultures traditionnelles sont en train de disparaître derrière cette catastrophe qui est la multiplication du soja transgénique. On nous dit que le soja c'est rentable, et ben on a constaté, des chercheurs ont constaté qu'en fait la rentabilité, le soja modifié produit 10% de nourriture, moins de nourriture que son équivalent naturel. On est complètement conditionné, il y a vraiment une propagande pour nous présenter les organismes génétiquement modifiés comme permettant de réduire la faim dans le monde, etc. C'est complètement faux et ça pose des problèmes sanitaires très très graves. Alors par rapport à ce que disait Fred tout à l'heure sur l'appauvrissement des variétés qui va de pair avec le trafic OGM, etc., c'est que par exemple le maïs, ça vient d'Amérique centrale et en fait il y avait à peu près une centaine de variétés différentes.
La controverse autour de la présence ou non de transgènes dans les variétés locales de maïs au Mexique, ça c'est au cœur de la controverse au Mexique. En gros, ils ont trouvé des transgènes dans les variétés locales et ça pose un problème et ça pose des questions en termes de risque environnemental, sanitaire et tout ça. Et que derrière une controverse apparemment très très localisée, si tu tirais les fils en contrepoint, ça se joue un conflit civilisationnel plus fondamental sur les dépassements de la modernité. En gros, entre une voie techno-économique et une voie socio-environnementale. Et du coup, à partir d'une étude de cas très localisée, je remonte à des enjeux sociaux, civilisationnels beaucoup plus généraux, en passant par un niveau intermédiaire d'analyse autour d'enjeux globaux comme les rapports science-société, enfin les rapports société-connaissance, les rapports nature-culture et les rapports science-économie. Pour te donner un exemple, les rapports nature-culture, c'est par exemple sur les perceptions du maïs au Mexique entre la perception des populations indigènes qui divinisent, pas toutes, mais en partie qui divinisent le maïs, qui en font un sur-sujet, quoi. En gros, il est non seulement doté de volonté, mais plus que les hommes. Et la représentation des biotechnologues pour qui le maïs est qu'un amas, un conglomérat de gènes qu'on peut bouger à volonté. Il y a toute une gamme de représentations du rapport social à l'environnement, en fait. C'est un des axes que j'essayais de lire. La socio des controverses, en gros, c'est faire des cartographies d'acteurs, savoir quelles sont positions, faire à peu près un historique de la controverse, voir quand est-ce qu'elle émerge, quels sont les moments d'alerte, quels sont les moments plus calmes et les moments de pic, autour de quel sujet ça se cristallise, et essayer aussi d'avoir une approche en termes de cadrage, essayer de repérer les cadrages, c'est-à-dire les manières de parler de la controverse. Par exemple, sur la controverse OGM, il y a plein de cadrages qui se superposent. Il y a des cadrages en termes de souveraineté alimentaire, il y a des cadrages en termes de risque environnemental, de risque sanitaire, le modèle de recherche, le modèle... il y a plein. En fait, plus qu'une seule controverse, c'est un amalgame de controverses. Et les gens puisent dans différents registres argumentatifs, selon différents cadrages, et font leur propre mix pour avoir leur approche de la controverse, quoi. Donc il y a peu d'approches vraiment transversales qui essayent d'englober un peu toutes ces approches, quoi.
Ouais, mais du coup, il y en a quand même une qui est plus dominante que les autres. Enfin, est-ce qu'il y a un cadrage qui domine ou qui...
Ça dépend des périodes, en fait. Tu vois, par exemple, en France, au premier moment de la controverse, ça s'est vraiment cristallisé autour des importations. Parce que l'alerte est donnée par des organisations type Greenpeace qui ont mis en avant le problème, enfin le fait qu'il y avait des importations de soja ou de maïs transgénique et que les gens n'étaient pas au courant. Donc là, tu vois, c'est plus un cadrage en termes de commerce international et risque. L'idée qu'il y avait derrière, c'était de mettre en avant le risque sanitaire, tu vois, type dans la continuité de ce qu'il y avait eu sur la vache folle ou ce genre de problème. Et après, tu vois, il y a eu une espèce de montée en généralité quand des acteurs type Confédération Paysanne se sont saisis de la problématique. Ils ont plus mis seulement en avant la problématique sanitaire, mais aussi des questions d'ordre plus justement souveraineté, ouais, politique agricole, et tu vois, ce genre de choses. Donc il y a des moments selon la, tu vois, par exemple au moment du McDo, du démontage du McDo, GM, tu vois, il y avait un espèce de mélange thématique autour de la malbouffe, les questions de souveraineté alimentaire, quoi. Après, il y en a qui ils ont aussi introduit l'idée le questionnement des brevets sur le vivant, droit de propriété intellectuelle sur le vivant, qui est aussi une autre question. Et toutes ces thématiques ont leur... ce qui rend aussi la controverse un peu dure à lire, c'est que toutes ces thématiques ont des technicités propres, quoi. C'est-à-dire, il y a une technicité juridique, il y a une technicité biologique à la base. Tu vois, c'est pour ça que, dans certaines mesures aussi, il y a des luttes d'intérêts. Il y a des luttes d'intérêts, mais il y a aussi des dialogues de sourds, au sens où les gens ont l'impression de parler du même objet, mais ils parlent depuis des perspectives tellement différentes, des cadrages justement tellement différents, que finalement, ils ne parlent pas de la même chose, quoi. Donc c'est un mélange entre lutte d'intérêt, dialogue de sourds, et des fois il y a des incompréhensions qui sont aussi alimentées, quoi. Un peu de tous les côtés. Bon, évidemment, on serait tenté de dire que par les industriels, un peu plus dans la volonté de cultiver... des doutes ou de pas... typiquement, le fait de jeter le doute sur les conclusions de Serralini, discréditer quelqu'un, c'est assez facile. Il y a des trucs... Il y a des techniques assez faciles. Tu mobilises des scientifiques, tu balances des infos sur des blogs. Donc concrètement, au Mexique, il y a eu le cas, la personne qui a découvert les transgènes dans les variétés locales de maïs a été victime d'une grosse campagne de discrédit de la part d'une grosse partie de la communauté scientifique et aussi de boîtes, quoi. Concrètement, un cas extrême, ça a pris la forme de ce qu'on appelle le marketing viral. Il y a eu des informations qui ont été postées sur un blog. En fait, c'est une entreprise qui fait paravent entre Monsanto et la société civile pour diffuser ce que Monsanto a envie de dire, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, que l'étude était pas crédible. Les mecs se présentent comme des scientifiques sur les blogs et voilà, quoi. Enfin, c'est des campagnes de discrédit plus ou moins orchestrées. Je dis pas qu'elles font systématiquement ça, mais il y a aussi y a des stratégies de communication, hein, de part et d'autre. D'ailleurs, il y a eu des cas, enfin, les ONG ont des capacités de mobilisation et de diffusion du message super, super efficaces aussi, quoi. Les OGM font autant débat parce que aussi, enfin, et se sont pas développés comme la logique industrielle aurait voulu qu'ils se développent, justement aussi du fait de ces mobilisations, donc ont des effets performatifs, quoi. En gros, c'est pas seulement des discours, c'est assez efficace aussi, quoi. Non, mais même moi, c'est très clair. Hein, j'ai un a priori négatif qui est assez perceptible dans mes... Dans mes publis, du fait que moi je pense que le modèle de société qui a derrière les développements des OGM tels qu'ils sont actuellement ne correspond pas à mes aspirations ni politiques, ni personnelles, ni éthiques. Voilà quoi. Après, je suis pas. J'ai rien. Enfin. Je suis pas systématiquement opposé à la transgenèse en elle-même. Je pense que comme objet d'étude scientifique, c'est pas inintéressant. Après, est-ce que ça justifie d'y investir autant d'argent et d'énergie alors qu'il y a plein de pans de la recherche qui mériteraient aussi d'être soutenus. Bon, voilà quoi. Moi, après, c'est plus vraiment. Bon, à plein de niveaux intermédiaires, mais vraiment au niveau du modèle de société. C'est ma manière de cadrer le problème. Le type de société auquel le renvoie, je m'y reconnais pas. Non. Voilà. Bon, déjà, j'ai absolument renoncé à l'idée d'objectivité en science, encore moins en sciences sociales. Après, je pense qu'on peut être honnête, reconnaître qu'il y a des arguments intéressants de part et d'autre, pour moi plus d'une part que d'autre, mais c'est plus des valeurs, tu vois. Là, par a priori, je voulais pas dire idée préconçue, je voulais dire j'ai des conceptions éthiques et personnelles, morales. Qui vont pas forcément dans le sens, en termes notamment d'éthique du vivant. Je pense que la vision biomoléculaire du monde qui est derrière l'idée de biotechnologie et de transgénèse participe d'un certain réductionnisme où la vie n'est que de la matière physique et sur lequel l'homme a toute capacité d'interaction. Donc déjà ça, à la base, ça me pose problème. Ouais. Et ça, c'est au fondement de la biologie moléculaire et donc de la transgenèse et des OGM. Après, il y a plein d'autres questions sur les mécanismes d'appropriation du vivant avec lequel je suis pas forcément en phase. Mais ne serait-ce qu'avoir un minimum conscience de cette complexité, déjà ça serait pas mal, quoi. Pas être dans l'argumentaire, non, les OGM, c'est dangereux, j'en bouffe pas, je vais avoir un cancer. Enfin, bon, voilà, ça va un peu vite. Ouais, voilà, après, je comprends. Et puis, moi, j'ai ce type d'opinion sur plein d'autres sujets que je connais pas à fond, quoi. Donc. Le cadrage risque sanitaire. Et risque environnemental prend presque trop de place, quoi. Je pense qu'il y a, sur ces thèmes, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Là où il y a moins d'incertitudes, moins de doutes, c'est effectivement sur les modèles économiques, les modèles agricoles auxquels ça renvoie. Enfin voilà, c'est dangereux d'en bouffer. Là, ça fait réagir. En termes de mobilisation, c'est ce qui va attirer plus de monde que si tu commences à leur parler des droits de propriété intellectuelle, quoi. Ça, c'est sûr. Après, par exemple, un exemple très concret sur un cadrage agricole un peu simpliste, tout le monde s'affole sur la technologie Terminator. En gros, les OGM vont stériliser les plantes et tout. Mais bon, cette stérilisation des plantes, elle existe. Enfin, il y a très peu de gens, finalement, à part les gens des campagnes qui connaissent les modes de production agricole, qui savent que les agriculteurs achètent leurs semences d'une année sur l'autre depuis 40-50 ans. Ça existe déjà avec les hybrides, cette forme de stérilisation. Il n'y a même plus pas besoin de la stérilisation légale qu'apporteraient les OGM, qui dépendent d'un autre droit des hybrides. Enfin bon, ça, c'est des questions de droit de propriété intellectuelle, justement. Mais ne serait-ce que ça, tu vois, ce type de conscience, voilà, c'est le genre de choses qui permettent peut-être d'améliorer peut-être un peu la qualité du débat, je sais pas. les OGM sont tous des hybrides, si tu veux, enfin, au moins dans le cas du maïs, des grandes plantes agricoles. Les OGM, on a inséré un transgène dans un génome, enfin un transgène, c'est-à-dire un gène d'une autre espèce, inséré dans une construction moléculaire, et cette construction moléculaire, on la met dans le génome d'un hybride. Et un hybride, c'est une variété qu'on a croisée et améliorée naturellement par croisement. En la faisant se croiser, on veut atteindre une certaine homogénéité génétique pour lui donner des caractères normalement plus productifs, quoi. Ça, c'est les hybrides. Ça existe depuis le début du siècle et ça s'est généralisé depuis les années 60. Et les OGM sont protégés par des brevets. Ça, c'est un autre type de propriété intellectuelle. Mais déjà, les hybrides, en fait, poussent moins bien d'une année sur l'autre. Et surtout, le système commercial et productif est fait de telle manière que les agriculteurs achètent leurs semences d'une année sur l'autre. Pas forcément parce qu'ils sont obligés, mais parce que, de fait, c'est comme ça, parce qu'ils considèrent que vaut mieux faire ça, que c'est plus logique d'un point de vue productif et économique. C'est plus rentable de faire ça, d'acheter les semences tous les ans, plutôt que de récupérer ses propres semences, de les trier et de les replanter, quoi. Ça, c'est le schéma en variété traditionnelle. En gros, tu as les variétés traditionnelles, les hybrides, à partir du 20e siècle, basiquement, et les nouvelles, la nouvelle évolution serait les OGM.
Je leur ai donné un coup de main en tant que faucheur et en tant qu'habitant de Montreuil, mais là c'est vraiment c'est le sens de l'humus. C'est une association qui est sur les murs à pêche. Ils travaillent beaucoup en fait au départ sur la question des sols et l'interaction des semences et des sols.
Pourquoi les paysans aujourd'hui n'utilisent pas les semences paysannes? Donc il y a l'histoire aujourd'hui, la législation qui leur interdit de le faire.
Je suis maraîchère et tout simplement, je n'ai jamais appris à l'école comment qu'on refait des graines. En plus, non mais c'est très clair. En plus, par exemple, on a parlé du chou-fleur. Le chou-fleur est une crucifère. En maraîchage, on a une quinzaine de crucifères qui cohabitent sur un jardin, même sur un jardin professionnel. Ça va du radis au navet à tous les choux et chou-fleurs. C'est pas rien. Hein, c'est... Bon, et en plus, il y a des salades qui sont des crucifères. Et les crucifères naturels qui sont dehors. Donc, c'est des précautions à prendre pour chaque graine. Et quelque part, c'était beaucoup plus pratique pour nous professionnels de déléguer ce travail, parce que c'est un vrai travail de sélection. Il faut bien séparer les fleurs, qu'il n'y ait pas de pollinisation. Enfin bon, c'est vraiment du boulot, quoi. On ne fait pas ça en plus. On peut faire ça en plus pour une ou deux variétés, parce qu'on aime ça. Il y a des variétés qui sont plus faciles à faire. Mais vraiment, sur les crucifères, c'est très, très compliqué. Au niveau de la politique agricole européenne, il existe une réglementation qui fait qu'on n'est pas censé toucher de primes quand on touche des primes sur les céréales, si on utilise ses propres semences. Alors, ça fait des années que mon syndicat, la Confédération paysanne, lutte contre ça, mais c'est la règle. Voilà. Et en général, les paysans achètent leurs semences à la COP du coin avec le phytosanitaire. C'est la COP qui fait les papiers pour les primes PAC et le paysan a la différence, voilà, le net. Mais il travaille à crédit avec sa coopérative. Voilà. Il y a plein de choses qui l'expliquent. Et c'est vrai qu'on s'est spécialisé de plus en plus et que c'est, au départ, c'était pratique, quoi. Il y a une forme de lâcheté, peut-être. Bon. Non, mais bon, voilà.
Pendant la Révolution verte, on a promis des rendements supérieurs, on a promis, on a promis plein de choses aux agriculteurs. Comme dit madame, là, il y a aussi tout un savoir-faire, en effet, qui s'est perdu et qu'il faudra... Alors, je ne sais pas comment, mais il y a des alternatives qui se mettent en place là-dessus, notamment dans le sud, en Aquitaine. Là, il y a une maison des semences qui s'est mise en place qui s'appelle Agrobio Périgord. Voilà, qui essaye aujourd'hui de conserver des semences et puis aussi de transmettre un peu ce savoir de sélection, de conservation. Il y a Cocopelli aussi, oui.
Il y a tout un réseau de semenciers qui sont notamment liés à réseau semences paysannes, qui sont des artisans semenciers, qui s'appellent Biogerme, Semaille, SMBio. Alors ils sont réunis en plus au sein d'un groupe qui s'appelle les Croqueurs de Carottes. L'idée, c'est que ces artisans semenciers fassent inscrire toutes les variétés anciennes qu'ils produisent dans ce catalogue et qu'ils aient le droit de les vendre à des maraîchers aussi. Hein.
Ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
Ce qui n'est pas possible, non, officiellement aujourd'hui.
En fait, si tu veux, il y a deux grands types d'OGM actuellement commercialisés. 95% des variétés, des plantes commercialisées ont un ou deux traits. Enfin, ce qu'on appelle les traits, c'est les caractéristiques que confère le transgène. Le principal, c'est la résistance aux herbicides. Et l'autre, c'est l'insecticide. Donc, c'est des traits favorables aux producteurs. En gros, c'est plus facile d'utilisation pour utiliser le Roundup ou les désherbants ou pour lutter contre les insectes nuisibles. T'as pas besoin de dépendre d'insecticides, l'OGM, le produit lui-même. Donc c'est plutôt au niveau de l'utilisation par le producteur. Il y a plein de débats parce que c'est vraiment là-dessus qu'ils le vendent. Et je pense que dans un type d'agriculture, type l'agriculture ultra-intensive, des grandes plaines américaines, ça confère effectivement un avantage comparatif, au moins à court terme, par rapport à des variétés standards. Quoi. Après, si ta priorité c'est de produire à fond et.
Ouais, je veux dire. Schweppes avec une rondelle de citron et des
glaçons. Beaucoup d'agriculteurs américains l'ont adopté, c'est pas pour rien, parce que c'est efficace dans un certain type d'agriculture. Après, tu peux aussi largement questionner ce modèle d'agriculture-là. Quoi.
J'ai cru comprendre que les OGM sont des plantes stériles. Stériles. Ce sont des plantes stériles.
Mais ce n'est pas plus stériles que des hybrides.
Les hybrides, en fait, il y a un effet, l'effet d'hétérosis, ça s'appelle, sont basés sur le fait que la première génération, tu réussis à générer d'hybrides, a des gains de productivité de l'ordre de, entre 5 et 20%. Enfin, j'en sais rien, c'est approximatif, mais en gros, c'est ça. Par contre, les générations que tu replantes, Il y a un effet négatif où elles perdent de plus en plus en productivité. Donc la graine qu'on te vend va être très productive, mais si tu la plantes d'une année sur l'autre, elle est de moins en moins productive. Les OGM, basiquement, c'est pareil, puisqu'en fait, c'est des hybrides dans lesquels on a inséré un transgène. Quoi. Après, il y a eu des projets pour des raisons... Voilà, c'était présenté par les boîtes comme une manière de rendre stérile... De contrôler l'éventuel flux génétique qu'il pouvait y avoir d'une plante à l'autre. Donc, il disait bah, une solution, c'est de les rendre complètement stériles. Quoi. Donc là, il s'assurait qu'il n'y aurait pas de problème de contamination. De contamination entre, par exemple, des champs transgéniques et des champs d'agriculture conventionnelle ou organique ou bio. Mais évidemment, ça a été décrié aussi comme une manière de stériliser complètement les plantes. C'est vrai que ça posait ce problème. À une stérilisation déjà quasiment légale par le brevet, se rajoutait une stérilisation effective biologique. Quoi. Non, c'est juste qu'en gros, la stérilisation par le brevet, c'est que du fait que t'es des droits de propriété intellectuelle, t'as pas le droit de reproduire la semence.
D'accord, ok. Ouais.
Voilà. Et la stérilisation physique, c'est-à-dire que physiquement, la plante ne peut pas se reproduire d'une année sur l'autre, ça, c'était fait par les boîtes pour des arguments avant tout écologiques, pour pas qu'il y ait de diffusion, quoi, si tu veux.
En fait, le risque de diffusion, de contamination des autres champs, c'est au moment où on plante, enfin, c'est au moment où on sème, mais en fait, finalement, même quand ça, l'année d'après, quand ça repousse, il y a toujours des graines qui peuvent...
Ben ça dépend aussi là des écosystèmes, ça dépend des types de plantes. Par exemple, le maïs, c'est une plante de pollinisation ouverte, c'est-à-dire que le pollen peut se barrer assez loin et il peut y avoir des effets de croisement, tu vois. Donc là, c'est pas au moment où tu plantes, c'est au moment où la plante pollinise, quoi. Il y a toute une lutte derrière les OGM autour des brevets sur le vivant. Le but, c'est de sécuriser un maximum le marché en s'assurant le monopole de telle ou telle technologie. Donc, même les fusions-acquisitions entre boîtes, les stratégies de rapprochement ou d'intégration de boîtes semencières se fait en fonction du portefeuille de brevets qu'ils ont. C'est-à-dire, s'ils maîtrisent cette technologie et s'ils ont ce brevet, ça peut avoir un intérêt de les racheter. Donc, ça peut être une des raisons des fusions-acquisitions. Mais bon, ça c'est aussi un truc assez, une thématique assez ingrate qui est pas a priori passionnante, mais en fait qui est quand même assez intéressante, c'est toutes les stratégies justement de regroupement, les stratégies industrielles des industries, de la chimie, du vivant, des semences qui ont énormément bougé dans les années 90. Notamment l'idée dans les années 90, c'était de faire une énorme life industry, c'est-à-dire des énormes conglomérats qui liaient en gros chimie, semences, mais surtout pharmaceutiques et agro. Par exemple, Monsanto à la fin des années 90, avait toute une grosse part de pharma aussi. Novartis, Syngenta, qui est une des principales boîtes semencières et agro maintenant, était dans Novartis. Et en fait, les années 2000, vu que les premières difficultés autour des OGM sont arrivées, ont poussé à la séparation des activités pharma des activités agro, en fait. L'industrie pharma avait peur d'être contaminée par la mauvaise réputation qu'étaient en train de donner les OGM. Donc il y a eu une séparation des activités agro et pharma. Mais à la fin des années 90, c'était impressionnant, quoi. Toutes les boîtes avaient... Parce que l'idée, c'était de réunir tout un panel d'activités autour d'une même base de recherche fondamentale autour du vivant. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait donc des problèmes de contamination de risque, mais de contamination symbolique. C'est-à-dire que les gens de la pharma avaient peur que toute la controverse autour des OGM leur retombe dessus. Mais même, il y avait aussi des effets. Une autre raison, c'est très pratique, c'est que la recherche fondamentale sur le vivant au niveau agro n'est pas la même que celle au niveau pharma. Et en fait, ça n'avait pas vraiment de sens d'avoir une même plateforme de recherche en développement. Donc maintenant, chacun se sont spécialisés, mais c'est intéressant, c'est beaucoup de boîtes aussi qui viennent de la chimie à la base et qui ont énormément racheté de boîtes semencières dans les années 80-90. Il y a une concentration énorme de la propriété sur les semences et même des activités de semences. Je sais plus les chiffres exacts, mais... c'est genre au début dans les années 80 il y avait 1000 boîtes qui contrôlaient en gros 80% du marché. Maintenant elles sont plus que 7 ou 8, quoi. Il y a vraiment un effet de concentration énorme dans le secteur semencier. Si j'essaye d'en parler dans ma thèse, c'est comme un package, un paqueté. Avec les OGM naissent aussi, c'est ça qui est intéressant, un modèle de recherche qu'on appelle en triple hélice, en référence à la double hélice d'ADN, mais là c'est triple hélice, c'est-à-dire industrie, gouvernement, recherche publique. Science, recherche, gouvernement. C'est le gouvernement est censé injecter des thunes dans la recherche qui est censée alimenter l'économie. Et l'économie est aussi censée rétroalimenter la recherche.
Enfin, c'est marrant parce que même la faillite, la non-réussite de ce triplé, elle a déjà été constatée sur des micro-terrains ou sur des macro-terrains. Donc c'est étonnant en fait qu'elle reprenne de la part belle.
Ça dépend de quel point de vue tu te situes en termes de réussite ou de non-réussite, quoi. Si le critère de réussite c'est de générer de l'argent, il y en a qui considèrent que ça marche, quoi.
Si le critère c'est par exemple que tout le monde travaille parce que le chômage n'est pas quelque chose, par exemple, même si je réfléchis d'un point de vue de gouvernement, si je veux que j'ai suffisamment d'argent pour avoir un état prospère et tout ça. Mais j'accepte une petite part de marginalité parce que de toutes les façons, il y en aura toujours. Donc tu vas avoir des gens qui vont pas travailler, machin et tout. Mais si on rentre dans ce truc-là, on voit bien que l'argent, il va être concentré dans des oligopoles et que tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont être mis sur la touche. Donc ça veut dire que le gouvernement, c'est lui qui va devoir payer pour les policiers qui vont limiter la délinquance, les services sociaux qui vont tenter la désintégration, truc machin. C'est lui qui va devoir financer tout ça. Donc est-ce que c'est intéressant pour lui ? Déjà, c'est pas intéressant pour nous, mais est-ce que c'est intéressant pour lui ? Tu vois ?
Ouais, bah là, écoute, je sais pas quoi te dire. C'est des arbitrages de modèles. Je te dis pas que je le suis, mais c'est un modèle qui a une certaine forme de logique et de légitimité, au moins dans la tête de ceux qui le pensent, quoi. Enfin, le modèle moderne, entre guillemets, où la science est complètement isolée du social et fait que de la production de connaissances. Mais aussi problématique, c'est un peu dommage que la réponse ça a été maintenant vous avez un but, c'est pas de produire de la connaissance, c'est produire de la connaissance pour faire de l'argent. C'est pas ça me paraît pas beaucoup plus intelligent, mais après, ce système peut être relativement efficace, même pour la production de connaissances. Tu vois les facs américaines, OK, il y a de la privatisation, OK, ça coûte super cher, OK, ça produit de l'exclusion, mais oui, OK, ça génère aussi de la production de connaissances de qualité dans certaines disciplines et dans certaines matières, quoi. Bon, voilà quoi. Est-ce qu'on veut le modèle français universaliste où tout le monde rentre et puis finalement il y en a très peu qui ressortent, ça me paraît pas beaucoup plus. Enfin, je sais pas. En gros, moi je suis en.
Là, d'une certaine manière, c'est la facilité. On voit qu'on a un modèle qui est défaillant et ça, tout le monde peut l'admettre. C'est-à-dire, du moins, il a ses failles et elles sont béante pour un certain nombre de gens. Maintenant, le troquer pour un autre système dont on sait lui-même qu'il génère de l'exclusion, tu vois, c'est de la fuite en avant, quoi, en fait.
Je le défends pas, quoi. Je constate juste que le modèle existe et est assez assez bien pensé. Les OGM ont contribué à faire émerger ce modèle-là qu'on retrouve actuellement dans les nanos ou dans les. Ce modèle donc triple hélice, qui est pensé dans le cadre, ça c'est important quand même, qui est pensé dans le cadre d'une économie de la connaissance. En fait, en gros, on dit qu'on est en train de passer de l'économie industrielle à une économie post-industrielle où la valeur ajoutée des produits n'est pas sur les matériaux ou les capacités de production qui sont internalisées dans le produit, mais dans la connaissance qui est internalisée dans le produit. Donc la recherche, ce qui va donner la valeur, j'en sais rien, à Tonipad, c'est la recherche fondamentale qui a été faite en microélectronique dedans, c'est le marketing pour te le vendre, c'est l'immatériel. Ça, c'est l'économie de la connaissance. Donc dans ce cadre, si tu penses que l'économie est post-industrielle et que la valeur est créé par de la connaissance, tu dis assez logiquement que ceux qui génèrent de la connaissance, traditionnellement les chercheurs, mais pas que les chercheurs, génèrent de l'argent.
C'est même les premiers postes.
Théoriquement, c'est les sources de l'innovation, quoi. Donc tu vois, en gros, on va arriver à une division internationale du travail où les pays du Nord produisent la connaissance et les pays du Sud produisent les objets, produisent matériel. Donc cette économie soi-disant dématérialisée, elle a des bases complètement matérielles aussi. Il ne faut pas que ça l'occulte aussi. C'est pas parce que la valeur réside dans la connaissance que derrière on est dans un monde purement virtuel, quoi.
Même j'avais lu des études, par exemple, justement ce qui portait sur l'Amérique latine et qui expliquait bien que. Par exemple, c'était tourné autour de la question des genres, donc c'était beaucoup sur les femmes. Avant qu'il y ait l'industrie genre des fleurs et des trucs comme ça, qui se soit ultra développée, des industries vraiment à direction unique des États-Unis ou du monde occidental, t'as des femmes qui s'intégraient dans des économies locales de micro-échelle où elles arrivaient à gérer entre ce qu'elles devaient faire, l'énergie qu'elles devaient obtenir pour pouvoir chauffer machin et l'éducation de leurs gosses et tout ça s'intégrait dans une échelle micro-locale, mais sur l'échelle de valeur capitalisée ça comptait pour zéro. puisqu'il n'y a pas d'échange, enfin il y a très peu d'échanges marchands, quoi, tu vois. Et à partir du moment où tu as cette industrie qui va s'installer, eh ben, ça va être capitalisé plus haut pour la Banque mondiale, le FMI, tout ce que tu veux. Mais par contre, ces femmes-là, elles vont devenir esclaves du système, puisque leur seul moyen d'arriver à acquérir ce qu'elles pouvaient avant acquérir par les ressources locales qui existaient et qui sont bousillées par ce truc-là. Donc elles n'ont plus le choix que d'être des ouvrières. Et elles ne peuvent plus éduquer correctement leurs enfants parce qu'en fait, elles en sont séparées la majorité de la journée, etc. Enfin, on rentrait dans une logique comme ça. Mais au final, le FMI, la Banque mondiale, pouvait dire, voyez, c'est positif, on est passé de 0,01$ par jour à 2$ par jour, tu vois.
À mon avis, la notion de vulnérabilité génétique, c'est un grand mot, mais c'est assez simple, c'est de mettre pas tous ses œufs dans le même panier, en fait. C'est-à-dire d'avoir, si on a un champ de clones, que ce soit à l'échelle d'un champ, ou si on a que des champs du même clone à l'échelle de la planète, ce qui est en train de se dessiner, parce qu'on a des semenciers qui, justement, quand on a Monsanto qui contrôle, je sais pas, 50% du marché du soja transgénique, on peut imaginer qu'après, ça peut être du soja entier. Donc, pour réduire ses coûts, il va commercialiser 2-3 variétés. Donc, il y aura 2-3 variétés qui vont faire 50% de toute la surface de soja dans le monde. C'est un peu catastrophique ce que je dis, mais c'est vers quoi ça dessine. S'il y a une maladie qui touche cette variété, comme c'est que des clones, tous meurent. Donc, si on n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier, que ça soit à l'échelle d'un champ, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on sème plusieurs variétés, on a plus de sécurité. On sait que ben, si une année, ce n'est pas propice à telle variété, ça va mieux aller. Mais en plus, à l'intérieur de la variété, si tous les individus ne sont pas identiques, il y en aura toujours un qui vont compenser l'autre. Donc on a une stabilité dans les rendements et une assurance. Donc en fait, la biodiversité, c'est vraiment une assurance pour la sécurité alimentaire et l'alimentation future et la possibilité de s'adapter aux changements climatiques et autres choses qui vont venir, changement de terroir, bidule. Voilà, c'était juste ce que je voulais. Mais la vulnérabilité génétique, c'est important comme concept, je pense.
C'est un autre cadrage, une autre manière d'aborder le débat, c'est sur les relations science-société. C'est sûr que depuis... En gros, depuis le nucléaire et ensuite les différentes crises, Vachepol, Prion, etc., il y a un questionnement social vis-à-vis de l'innovation technologique. Là, sur les nanos, on le voit. Et en plus, ça se polarise de plus en plus, quoi. Donc les gens demandent des comptes démocratiques à la science et au marché en questionnant l'innovation technologique. Ça me semble très simple parce que c'était, comme disait Beck, c'était subpolitique. Si tu veux, ça appartenait pas au débat politique, au débat démocratique avant. Et c'est en passe de devenir un objet politique. Et donc, a priori, qu'on puisse débattre d'un point de vue démocratique. C'est un sociologue qui a écrit La société du risque, qui est un grand classique des années 80, qui annonce un petit peu tous ces types de crises et les réactions sociales que ça va engendrer, quoi. Et justement, pour lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout une approche du risque réductrice en termes risque sanitaire, risque environnemental. Pour lui, le risque, c'est une question de civilisation. Le risque, dans sa définition sociologique, c'est tous les impensés de la modernité. C'est-à-dire, la modernité fonctionne sur des mythes, le mythe du progrès, le mythe de la science, le mythe de la rationalité. et que ces mythes cachent tout ce que le mythe de la séparation aussi nature-culture, et que ces mythes nous empêchent de penser des réalités comme ce qu'on est en train de se prendre dans la gueule, c'est-à-dire l'effet de feedback. Lui, il appelle ça de la crise écologique, quoi. Les OGM sont un symptôme de ce type de risque social civilisationnel. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait, c'est... Ulrich Beck. Bon, c'est la société du risque, c'est un grand classique, et à juste titre, pour moi, c'est quand même un grand bouquin, quoi, parce qu'il pose justement toutes ces questions en termes de modèle de civilisation, et pas seulement, voilà, il y a un risque au sens, il y a un danger, comment on le gère, quoi. Il dit que ce qu'il y a en jeu derrière tout ce type de controverse qu'on appelle maintenant socio-technique, type OGM, nano et compagnie, c'est plus que des questions d'innovation ou je sais pas quoi. En dernière instance, ce qui se joue, c'est les réactions face à la crise de notre modèle de société moderne. Donc ce qui se joue finalement, c'est on questionne le progrès, la technologie, la croissance et tous les mythes constitutifs de nos représentations modernes.
L'argument, parce que juste pour revenir sur ce truc-là, l'argument des industriels, il y a les effets sur la plante, donc l'intérêt de rentabilité, mais il y a aussi l'autre argument, c'est on va nourrir la planète.
Bon, ça, ils ont tendance quand même à l'utiliser beaucoup moins. Ils l'ont fait beaucoup pendant un moment. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas très crédibles à dire ça. Malgré tout, c'est vrai que c'est encore assez prégnant dans les discours. Et les gens qui connaissent bien, ce qui est étrange, c'est que des fois, ça dépend des rapports, mais la FAO peut relayer ce type d'arguments. Mais bon, non, quand même, globalement... c'est à peu près établi par beaucoup de gens qui connaissent bien les questions, les problèmes alimentaires, que plus qu'une question de production, c'est une question de répartition et de a priori il y a des questions de volume, mais il y a surtout des questions d'accès et de répartition, de contrôle de la distribution, ce genre de choses. Donc c'est
sur les questions d'accaparement des terres, de manière plus ou moins légale et de manière plus ou moins industrielle.
Oui, si tu veux, les OGM sont liés au modèle. C'est deux questions quand même un peu différentes qui peuvent se lier dans un.
L'argument est moins utilisé, c'est ça ?
Je pense que ils se sont rendus compte que l'argument était peut-être un peu abusif et un peu faible. Du coup, il l'utilise un peu moins. Puis de toute façon, il l'utilise un peu moins dans la mesure où les nouveaux traits qu'ils avaient promis, type la résistance au stress hydrique, c'est-à-dire, très vite dit, à la sécheresse, ou la résistance, ou par exemple à l'aluminium, qui est aussi, il y a des problèmes, il y a des sols qui sont très dégradés, qui contiennent beaucoup d'aluminium, et du coup, il pourrait y avoir des plantes résistantes à l'aluminium qui pourraient pousser sur ces... techniquement, la deuxième génération d'OGM qui devait apporter des nouveaux bénéfices de cet ordre-là, donc résistance à la sécheresse, fixation d'azote aussi, qui était un des traits qui était promis depuis longtemps, ils se sont rendus compte que c'était des caractéristiques qui étaient conférées par plusieurs gènes à la fois. C'était très lourd à mettre en place. Et c'était très dur à cibler et à contrôler, en fait. Quand ça concerne l'expression de plusieurs gènes, on rentre dans une vision beaucoup plus systémique du génome, où les gènes sont en interaction, il y a des effets de placement dans le génome. Bon, et du coup, ils n'arrivent pas à développer ces produits qui... et du coup, leur argumentaire s'affaiblit aussi, quoi. Ce matin, j'étais à un rapport sur les poissons OGM. Voilà, donc j'ai... Il y a des poissons OGM aussi, on peut faire des OGM avec les animaux, on le fait avec des bactéries, on le fait avec des végétaux, on peut le faire avec des animaux. Il disait que ça se fait beaucoup au niveau de la recherche, que commercialement apparemment ça représente un intérêt très limité, et que c'est possible que ça ne se fasse pas en fait. Il y a quelques demandes d'autorisation, enfin aux États-Unis notamment, pour des saumons... dans lesquels on a ingéré des gènes de croissance pour les faire croître plus rapidement. Il y en a pour des poissons décoratifs, des poissons fluorescents, on leur a inséré un gène de fluorescence. Voilà. C'est au niveau des États que ça se négocie. C'est essentiellement les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture et du Commerce des différents États qui négocient sur la base de ce protocole. Ouais.
Mais pas les États-Unis.
Non, pas les États-Unis. Ouais, les États-Unis signent, tu vois bien, au niveau environnemental, ils signent rien qui pourrait contraindre leur commerce. Donc, ils sont ni signataires de la Convention sur la diversité biologique, ni du protocole de Carthagène dont est issu. Le protocole de Carthagène est issu de la Convention sur la diversité biologique. Et ils ont signé ni les uns ni les autres. C'est le cadre international qui règle, qui fixe les grands principes de la biosécurité. La biosécurité, c'est ce qui régule les mouvements et les autorisations d'expérimentation et de commercialisation des OGM, enfin des produits issus des biotechnologies. C'est quelles sont les règles que tu t'imposes pour garantir la sécurité des importations, des exportations et de la production des OGM. Quelles règles tu fixes, quel pourcentage à partir de quel pourcentage d'OGM tu étiquettes tel ou tel truc, à partir de quel pourcentage tu laisses rentrer dans tes frontières, enfin tu vois, c'est toutes ces questions-là. Quelles sont les normes de confinement que tu dois adopter en labo, en essai en plein champ, voilà, c'est tout ce qui régule ces questions-là. En supposant, avec l'idée derrière, que les OGM méritent un traitement juridique spécifique par rapport à des variétés conventionnelles comme les hybrides. Par exemple, aux États-Unis, c'est basé sur le principe d'équivalent substantiel qui dit que les OGM ne méritent pas un traitement législatif différent parce qu'ils sont substantiellement équivalents aux hybrides.
Mais à part les hybrides, il n'y a rien d'autre.
Bah, y a les variétés locales, les variétés traditionnelles. Bah, disons qu'aux États-Unis, elles ont fortement disparu, mais en France aussi quasiment, à part les gens, j'en sais rien, du réseau semences paysannes ou des petits agriculteurs particuliers qui continuent à semer avec des variétés locales. Bon, et puis même variétés locales, qu'est-ce que ça veut dire
L'idée aussi de ces variétés anciennes et de la préservation de ces variétés anciennes, c'est qu'elles sont une richesse pour nous, pour notre survie, pour notre alimentation. Ce qu'ils sont actuellement en train de détruire avec les semences, avec les semences autodestructrices, les semences, les OGM Terminator, dont on n'a pas parlé, mais qui procèdent de la même logique, c'est-à-dire d'une logique d'autodestruction des plantes ou d'auto-élimination, ce qui fait qu'à chaque fois, le tiroir à caisse doit fonctionner pour les mêmes agro-semenciers, pour le même agro-business. Et donc, on est en train de perdre une biodiversité potagère, légumière. Ce qu'on essaye de défendre vis-à-vis de ça, c'est une biodiversité vivante. Et c'est une biodiversité qui n'est pas uniquement avec les petits artisans semenciers ou cocopelli, biogermes, etc., mais aussi de tout un chacun. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est nous tous dans nos jardins partagés, dans nos jardins collectifs, dans le jardin dans notre maison, sur notre balcon et tout ça. C'est partout que nous, on peut participer à cette biodiversité. C'est pour ça que cocopelli fait parrainer des graines ou que bah, y a des mouvements, bah, des semeurs volontaires qui essayent de donner des graines. On en distribuera un peu, on n'en a pas beaucoup tout à l'heure, pour que bah, cette biodiversité, elle soit partout.
Africanos en las pampas argentinas, toques y llamada de tambores. Candombe, tango, un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada. China se va a fumar. Soneta de los Tanos, piano piano nació el tango. Nació el baile, compadrito y orillero, guapo, futurista y nostalgioso. Mestizaje de europeos, negros, indios. En el Río de la Plata hace mucho, no se sabe justo cuándo, un buen día nació el tango.